Donc, ce soir, une heure en compagnie de Victoria de Grazia pour son livre Le parfait fasciste, amour, pouvoir et morale dans l'Italie de Mussolini. C'est un livre, Victoria de Grazia, je ne dis pas familial, mais quand même un peu consécutif à votre expérience familiale. Votre père a participé à de nombreuses guerres. Et c'est la veuve de votre père qui l'a traduit de l'américain au français.
Oui, il y a quelque chose de familial.
Oui.
Bon, j'avais pas pensé, mais peut-être ça marche comme ça.
Et c'est l'histoire d'une famille inachevée, celle d'une chanteuse américaine et d'un leader fasciste italien. Alors, je ne sais si parmi vous, il y avait un producteur de cinéma. Mais il serait intéressé de bout en bout par le parcours que je vais raconter en quelques phrases, comme le pitch d'un scénario. Et puis après, on entrera, si vous le voulez bien, dans le détail. Image, nous sommes en l'an 4 du fascisme, 4 ans après la marche sur Rome. Le monsieur qui est à droite, là, avec une très belle barbe très bien taillée, est un des leaders de la marche sur Rome. Attilio Teruzzi, même s'il n'est pas très connu, il est important. Et il épouse une chanteuse lyrique de premier plan américaine qui porte une sorte de bandeau hellénistique ou de tiare byzantine pour ce mariage. Elle va renoncer à sa carrière. Au deuxième plan, il y a le directeur de la Scala de Milan qui est un peu furieux d'avoir misé sur cette dame qui va se consacrer à son époux dans l'ombre de Mussolini qui vient comme témoin au mariage et assiste les parents des milliardaires juifs américains, très contents de ce mariage. Ils le seront moins après quand Teruzzi, le leader fasciste, répudiera son épouse, la chanteuse, qui refusera pendant plus de 20 ans le divorce, arguant de tous les arguments possibles et imaginables devant les tribunaux ecclésiastiques qui finiront, mais en 1948, simplement par lui donner raison. Alors voilà l'histoire du parfait fasciste, résumé un peu grossièrement. Alors cette dame, parlez-nous de la chanteuse Liliana, qui n'est pas gênée par le fascisme, elle se laisse faire la cour par le leader fasciste, et elle finit par céder. On ne sait pourquoi.
Cette espèce de, si on la raconte comme histoire, comme roman américain, ça c'est Edith Wharton ou James, c'est sa femme pure, talentueuse, hardie, riche, cultivée, cinq langues, qui va pour étudier, pour la sa vocation, très très ambitieuse. Et je crois, peut-être même dans le climat d'excitement, d'excitation, de sensationnel après, surtout à partir de 24, 25, quand le régime se consolide, perdre sa vocation pour sa ambition vient de trouver cet espace avec cet homme de Piazza. Et c'est difficile de croire parce que il y a sur des personnes tellement différentes, ce petit bon homme, ce soldat assez simple, brusque, plein de passion, fasciste, vraiment fasciste, violente aussi. C'est-à-dire, il a tué des gens, peut-être pas les ouvriers, mais surtout dans la guerre. Et vraiment, tout à fait différent. Et pour lui, c'est une espèce de coup de foudre quand il le voit comme grand, riche, américain, différent, plein de talent, et même juif, ça c'est même important pour lui, parce que Mussolini avait sa grande, son amie Margherita Sarfatti, très très intellectuelle, riche et fasciste. Et alors, c'était très intéressant de comprendre pourquoi ces deux ensemble.
C'est plus facile à comprendre vu du point de vue américain, parce que vous êtes américano-italienne. Mm-hmm. Les Américains voyaient ce monsieur comme beaucoup plus important qu'il n'était. Ouais. C'était juste un député du parti fasciste. Il y en avait beaucoup.
Ouais.
Et les Américains se disaient « Ah, oh, c'est un futur sénateur, c'est quelqu'un de considérable.
» Qu'il était du cabinet du président. Il disait « Président Mussolini ». Il était président du cabinet, mais c'était surtout le duce ou le ministre. Mais alors, il était dans le cabinet du président. Il était... il avait un grand futur, il disait ça, et il était toujours vêtu comme général de la milice, général,
oui,
de l'armée. Pour elle, c'était la même chose, elle disait général, il était comme ça, qu'il était avec le roi, et ça c'est très important pour les Américains, le roi. Et bon, alors la famille l'a lu comme une personnalité du succès, et qui avait vraiment besoin, parce qu'il était triste, traumatisé par la guerre, par toutes ces choses, qu'il avait besoin de cette femme honnête, juive, avec une grande moralité, très très fort.
Et qui était un peu le repos du guerrier, parce que ça avait été un soldat courageux. En Libye, au moment de la première guerre italienne en Libye, pendant la première guerre mondiale, quand les Italiens étaient aux côtés des Alliés, le repos du guerrier, bien mérité.
Oui, et même aussi parce qu'en ce moment, 24-25, il a été très très important pour les Italiens de résoudre le problème du crédit américain, de repayer les Américains pour la guerre, et même aussi pour avoir de l'argent avec la normalisation, toute la grande finance américaine voyait l'Italie comme possibilité. Alors, ça semblait vraiment un couple de grands pouvoirs, de grandes possibilités, comme lien entre les deux pays. C'était, bien sûr, des idées des privés, mais avec cette possibilité publique de révolution et de grands liens entre les deux pays.
Et alors, quand on regarde l'habillement des invités du mariage, on est étonné de voir Mussolini en jaquette et en col cassé. Il y a un aspect mondain dans le fascisme qu'on néglige parfois et qui est assez fort dans ces années d'installation au pouvoir, où il faut montrer patte blanche, dire qu'on sait se tenir à table, qu'on sait s'habiller, qu'on sait se conduire correctement dans les salons.
Oui, d'accord. C'est qu'on pense toujours au fascisme comme marche sur Rome, violence. Mais il y a vraiment la nécessité de se normaliser avec la bourgeoisie. Et pas seulement la bourgeoisie, mais l'aristo-bourgeoisie, c'est-à-dire peut-être la clergé, peut-être les cardinaux, les généraux, la grande finance. Et dans ce moment du mariage, on organise une espèce de fête mondaine avec deux rites civils, rites catholiques aussi, elle est juive, il faut avoir le permis du pape pour ça, et 400-500 personnes. Et normalement, on sait, dans la bourgeoisie, c'est-à-dire pour les fascistes, il y a une grande division entre public et privé. Mussolini a toujours craché ses liens personnels, la famille était à Milan, il était à Rome, dans la Romagne. Et ça, c'est le premier mariage fasciste avec tout le monde.
Quand on regarde les systèmes équivalents, le Troisième Reich plus tard, la vie mondaine y est restée organisée, ou si on regarde le régime de Vichy en France et qu'on lit le journal intime de la fille de Pierre Laval, la comtesse de Chambrun, le monde mondain, du moment qu'il peut continuer à observer ses rites, les dîners, les bals, les défilés de couture, les fêtes de mariage, eh ben, il oublie quelle est la nature du régime.
Non, c'est très, très intéressant, une espèce de découverte, parce qu'on pense, oh, régime totalitaire, chute, il n'y a pas rien, c'est l'anomie totale. Mais tout autre, c'est-à-dire, au début, on pense, il y a le salon, il y aura les mariages, la question des enfants, de la reproduction sociale, avec toutes les distinctions, en mixte entre bourgeois, des sections bourgeoises, aristocratiques peut-être, et fascistes. Alors, le nouveau homme, ça c'est important, mais on va faire une espèce de sécrétisme entre les deux. Et alors, ça veut dire peut-être il y aura même les salonnières. Margherita Sarfatti, elle a organisé pour Mussolini. Alors l'idée d'organiser pour les fascistes ce type de vie mondaine normale, normalisée, surtout après la guerre, parce que ça a vraiment blessé tous ces hommes, et la révolution fasciste, la question de créer un ordre normalisé. Et les modèles étaient, bon, les modèles étaient bourgeois, et c'était très important s'intégrer. Surtout pour ces types comme M. Teruzzi, qui venait du peuple milanais, qui avait fait carrière, c'est-à-dire c'est parce que dans la légion étrangère, ça, dans les troupes coloniales.
Alors, les troupes coloniales, il y a déjà de quoi faire un film à la Visconti avec tout ce que vous venez de raconter.
Ça coûte très cher. Hein,
il faudrait aussi aller dans la Libye actuelle, qu'on appelait la Cyrénaïque, où notre ami Attilio Teruzzi et son épouse Liliana se retrouvent, couple de gouverneurs, ils vont pratiquer une colonisation qui est quand même assez originale, un peu sur le modèle d'Auguste et de l'Empire romain. Cyrène, c'était une cité romaine.
De peut-être 100 000 personnes. Oui, ça c'est vraiment le fascisme. Le colonialisme fasciste cherche de se distinguer du colonialisme français à côté, Tunisie. Ça devait être italien pour eux, ou l'Algérie, ou ce qu'ils disaient de l'Empire britannique, parasitaire, sans besoin cet empire africain. Mais les Italiens avaient besoin. Et surtout, il avait la culture de la civilisation, de la ville, avec tout ce modernisme. Alors, Teruzzi, soldat, avec la Liliana, ils vont à Benghazi, et ça commence le vrai colonialisme italien, c'est-à-dire dans la ville, des architectes modernistes qui vient de Milan, et en même temps les massacres contre les bédouins dans le désert. Alors c'est ce principe d'ordre de grandes civilisations, c'est-à-dire de archéologie, de goût, des mœurs de la civilisation italienne roman, et de l'autre côté la Grèce, les massacres, à la fin vraiment un génocide maintenant qui ont tué ça c'est un peu après Teruzzi, et Teruzzi était vieux soldat alors.
Oui, puis il se présente en architecte comme les grands gouverneurs romains qui construisaient des temples, des places, des palais. Ouais. Et elle, Liliana, elle se présente en maîtresse de maison.
Oui, maîtresse de maison, mais même elle veut être gouverneur elle-même. Elle comprend qu'il est soldat aussi. Bon, il a des relations sexuelle du soda, elle commence à comprendre que c'est un type compliqué, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le gouverneur, mais il est aussi général, et il doit faire même les campagnes militaires, et toute cette vie de soldat, elle commence à penser, j'apprends à faire la vice-roy, la vice-queen,
la vice-reine.
Et elle me dit, il faut avoir même le vocabulaire pour faire ça, parce que c'est une question maintenant, même bureaucratique. Bon, alors, elle a des grandes prétentions de faire un type de gouvernement. Vraiment, elle utilise les modèles anglais pour penser qu'il faut faire...
Le modèle de l'Empire romain et le modèle de l'Empire britannique par ce couple de gouverneurs. Mais néanmoins, elle continue à faire l'aller-retour avec New York, où habitent ses parents. Et c'est pendant qu'elle est à New York qu'elle apprend qu'elle n'est plus la bienvenue à Benghazi, que d'ailleurs son mari, Attilio, vient d'être nommé à la tête de la milice du parti fasciste, qu'il va quitter son gouvernorat, et voilà qu'il va la répudier. Ouais. Il est brusque, vous avez dit. Il la jette, quoi.
Oui, ça, quand j'ai commencé la recherche, c'est-à-dire la recherche, c'était des sacs de lettres, de papiers d'elle.
Dans la famille des parents américains.
Dans la famille d'elle, américain, les sacs comme ça. Et bon, là-dedans, il y a copie d'une lettre écrite par Trierutzi de 8 pages, copie, photocopiée, Et c'était, il a renoncé en disant qu'il a été trahi par elle. Et ça, c'est le moment qui devient chef de chemise noire, c'est-à-dire 1929, très important, c'est dur, c'est-à-dire militaire et milicien. Il doit faire une espèce de compromis entre les deux, qui a été très question politique. Et il se trouve avec l'américaine, avec juive. Et ça, c'est 1929, et ça commence à changer. Après le crack de Wall Street, alors la question financière, beaucoup d'anti-américanisme, et surtout qu'elle parlait, qu'elle était toujours cherchée de faire l'américaine, c'est-à-dire de dominer, c'est-à-dire surtout à l'américaine sur les questions de moralité, c'est-à-dire de contrôler ses... Et alors, peut-être on a eu un complot. Vraiment, c'est du mélodrama. Et ça commence une autre époque, je crois, avec ce moment mélodramatique de l'opéra, d'Othello, de Desdemona. Vraiment, il y a une espèce de Iago fasciste qui s'appelle Farinacci, qui fait le complot, qui l'accuse d'avoir écrit des lettres, tout ça, avant son mariage. Et à ce moment, rupture du mariage. Et ça, c'est très important, parce qu'il n'y a pas de divorce en Italie. Et le régime en ce moment, 1929, pour se consolider, fait des accords avec le Vatican pour donner au Vatican tout le pouvoir sur la question du mariage.
Il y a une délégation du pouvoir politique à l'Église qui conserve le monopole de la célébration et de l'annulation des mariages. On va y venir parce que c'est fondamental pour la recherche que vous avez menée. Mais qu'est-ce qui lui est reproché? Elle est snob, dit-il.
Oui, elle a été snob. Il a des problèmes avec sa mère de Tierruzzi, qui était...
Il a amené sa mère à Sirène, à Benghazi.
La vieux mère.
Et la mère s'entendait pas avec la belle fille.
Qui disait toujours, il a marié silencieuse, mais il s'est marié avec une juive, alors les enfants, bon, elle a dit, ça ne s'était pas public, mais après elle va le dire, c'était une espèce de paysan de la Lombardie, de Como, catholique, très catholique. Et alors, elle avait des grands problèmes avec cette dame ambitieuse d'autres types, complètement.
Et qui n'était pas vierge au mariage ? Excusez-moi, mais c'est important, qui n'était pas vierge au mariage ?
Ah oui, ça c'est. Bon. Non, ça... Alors, si, oui, c'est une idée bizarre.
Ce qui est bien avec Victoria de Gracia, c'est qu'elle s'exprime autant avec les mains.
Tout à fait bien. Ouais. Très important. Oui, si elle avait un rapport avec son impresario avant le mariage, ça voulait dire qu'il n'est pas vierge. Bon, alors on dit commandement, mon homme moderne, parfait fasciste. Chef des miliciens, gouverneur de Benghazi, qui lance l'idée que sa femme n'était pas vierge quand il a écrit une lettre à sa mère, la mère de sa femme, en disant « Je vous remercie pour cette âme pure, l'idée donc, à tout. » Après le mariage. Après. Bon. Alors, c'est un peu le centre mélodramatique et après une espèce de dénouement, un moment de dénouement, de passage entre les années 20, les années 30.
Alors, on va y venir. Ouais. Vous me direz, c'est tout ça, c'est anecdotique, c'est de la petite histoire. Pas du tout, parce que c'est le fil conducteur que vous suivez de bout en bout. Et toutes ces questions vont être démêlées pendant 20 ans. Par la justice ecclésiastique, puisque c'est elle qui décide de la possibilité ou non de l'annulation des mariages. Souvenez-vous, la famille princière de Monaco, beaucoup plus tard, s'est retrouvée comme ça, entre les mains de la justice ecclésiastique qui allait décider ou non de la validité des mariages qu'elle avait organisés. Il y avait aussi en France un exemple fameux. Une milliardaire américaine, Madame Gould, avait épousé un aristocrate sans le sou, Bonnie de Castellane, qui disait elle est pas très belle de face, mais de dot. Elle est très bien. Bon, et c'est une affaire qui a duré longtemps. Alors, la justice ecclésiastique a le pouvoir. Alors, c'est grâce à la justice ecclésiastique que vous allez pouvoir écrire ce livre, parce que la justice ecclésiastique n'ouvre pas ses archives, bien sûr, mais Liliana a envoyé copie de tout à sa famille et c'est dans les sacs que vous évoquez que vous avez trouvé les documents. Alors, première instance à Milan, deuxième instance à Pavie, troisième instance, un peu la cour de cassation, la Rote, la Sainte Rote à Rome. 20 ans de procédure.
Oui, ça part, oui. Et on peut dire, pourquoi avec le perspective de Me Too, mais pourquoi pas laisser ce type ? Pourquoi est-ce que cette femme juive américaine, qui se disait après antifasciste, pourquoi elle a fait résistance à ce processus de...
Parce que lui voulait divorcer, elle aurait pu.
C'était pas possible. Alors, elle aurait pu aller à Reno pour faire le divorce. Oui. Le divorce américain, après, elle n'aurait pas... épouser un catholique, alors c'était comme ça, elle aurait pu renoncer. Mais c'est un type, hein, Liliana, c'était formidable, bon. Et je crois que ça, c'était parce qu'elle était juive, parce que c'était une insulte à sa personnalité, une grande violence. Elle a vu comme grande violence. Peut-être, oui, c'était... Pour le bloquer, il y a toujours des questions de bloquer sa vie. Parce que
la revanche.
Revanche. Revanche, c'est intéressant. Oui, c'est revanche, mais... Oui, il y a de revanche. De défense, surtout, je crois. Revanche, après,
Quand
elle a découvert qu'il y avait des autres femmes, des autres amis. Mais ça est très intéressant... de voir cette femme comme elle a fait les alliances, même dans l'Italie, même aux États-Unis, avec le cardinal à New York.
Oui, elle cherche des gens pour la défendre.
Pour se défendre. Elle a trouvé le plus grand expert avocat de la démocratie chrétienne, Meda, qui était chef du gouvernement de la démocratie chrétienne. Elle a trouvé le meilleur avocat libéral, grande Chaloya, ce sont des noms en Italie, bon, Badinter, c'était l'espèce de Badinter, le Chaloya. Et après, elle trouve toujours des appuis, même dans l'Italie, parce qu'il y a toujours cette petite possibilité de se défendre. Et bon.
Mais attendez, ça lui coûte très cher financièrement, mais pas seulement. Elle reste en Italie le plus longtemps possible. On verra dans quelles circonstances elle va devoir quitter l'Italie. Mais quand elle était en Italie, elle est sous une menace. Elle ne peut pas avoir la moindre relation sexuelle avec un autre homme, parce que toute sa défense s'effondre. Ouais. Elle est obligée, pour défendre son honneur, d'avoir un comportement transparent.
Ouais. Transparent, c'est-à-dire oui, d'avoir seulement des liens avec des jeunes officiers gentils, mais sans sexe, parce que c'était impossible, c'est-à-dire il y a des espions, parce que dans la Loire, en Italie, oui, il y a des lois contre
l'adultère.
Adultère, ça a été l'adultère.
Le mot honneur, vous ne le prononcez pas souvent, mais on dit d'habitude que c'est une vertu virile souvent. Mais c'est l'honneur qui l'a conduit.
Oui, ça aussi, que c'est intéressant parce qu'on pense le fascisme, la question de la moralité, l'honneur. Oui, bien sûr, la gloire. Mais voir dans ces mœurs l'idée de archaïque, anachronistique de fascisme, de ce type, de cet homme qui est toujours à corrompre pour avaler son honneur. Tout violente, mais pour rendre plus civil ses liens avec le monde, pour pouvoir s'épouser et créer une famille légitime. Ça, c'est le but et qu'il devait faire pour Mussolini, qui Mussolini a toujours fait ses pressions, parce que autrement, ce type circulait et qui faisait c'était un type, un homme vraiment du désordre, avec beaucoup d'amants, et tout, des liens.
Vous dites que ça a retenu l'attention autant que la sexualité de Bonaparte et de Berlusconi.
Oui, je pensais souvent à Berlusconi, qui est cette espèce, les droits de. La licence que. Que le despotisme permet aux hommes, et même l'idée que Tiruzzi pouvait protéger les femmes avec des faveurs. Ça, c'est très important pendant le fascisme, que on connaît bien de Berlusconi, la possibilité de donner des petites choses, du travail. Il trouvait toujours du travail pour les femmes.
Là, Tiruzzi, il est un peu dans la main de sa femme qu'il a répudiée. Parce que d'une certaine manière, il est un peu ridicule, parce qu'il va voir exposé à la vue de tous toutes les questions intimes qu'on cherche en général à garder pour soi. Alors parlez-nous, parce que ça ferait dans le film, le cœur du film, parlez-nous des interrogatoires par les ecclésiastiques, deux anciens conjoints et de leurs avocats. Alors de quoi on discute ?
Au début, j'étais... C'est-à-dire choqué, c'est-à-dire c'est en latin, parfois c'est
traduit. C'est en latin.
Latin, parfois c'est traduit en italien, parfois ça vient d'être traduit en anglais. Mais c'est une vraie inquisition, c'est-à-dire le clergé a le droit de demander si ça a été un mariage normal. c'est-à-dire avec la consommation, comment a été la consommation, les rapports d'amour entre les deux. Alors, c'est tout écrit, ça. Des questions et des prêtres.
C'est-à-dire comme quoi les prêtres s'arrogent des compétences.
Oui. Et pourquoi compétents? On m'a dit, le jésuite, j'avais écrit incompétent à juger en mariage. Et un jésuite à Washington m'a corrigé. Il dit, parce qu'ils ne sont pas mariés ou ils sont mariés avec Dieu. Alors, ils connaissent très bien le mariage. Qu'est-ce que ça veut dire, le mariage? Ils sont tout à fait compétents pour comprendre l'humanité, les liens entre et les devoirs, surtout pour le couple. Parce que c'était la question, c'est... Elle a vraiment consenti au mariage. C'est un peu la question qui Natalie Davis dans Martin Guerre. La question, c'est vraiment, est-ce qu'il y a un mariage? Est-ce qu'il y a un vrai mariage entre les deux? Est-ce qu'il a compris de l'un et de l'autre?
Attendez, rendez justice à la justice ecclésiastique quand même. Quand Teruzzi dit... Elle n'était même pas vierge. La justice ecclésiastique dit c'est pas ça la question, c'est pas un argument.
Oui, ça c'est important. Après beaucoup de questions, on a eu, parce qu'il a dit qu'une question, c'était pas parce qu'elle était juive, c'était pas parce qu'elle. La question était si elle était illégitime, c'est-à-dire qu'on ne savait pas. De où elle a été née, l'année, bon, tout ça. Mais surtout, l'idée qu'elle devait être vierge, moi, c'est pas dans le canon, dans les lois ecclésiastiques. Alors, on entre dans un monde, un autre monde de justice. Et peut-être ce que j'ai voulu faire voir, qu'il y a l'effort du régime fasciste de corrompre l'Église, la justice de l'Église. Eh bon, ça a été difficile.
L'Église a tenu bon, là.
Ouais. Alors, à la fin.
Racontez les instances, parce que c'est dans le détail que se niche le bon Dieu. Première instance, Milan. Alors, vous avez connaissance des sources par les documents conservé dans la famille aux États-Unis, vous n'avez pas accès aux archives du tribunal ecclésiastique de Milan. Deuxième instance, Pavie. Et là, vous avez un peu accès aux archives de Pavie.
Ouais. Ça, c'est après. Alors, au début, c'est 32, 36, l'archidiocèse de Milan dit que non, ça, le mariage, ça marche. Mais après, à Pavie, c'est après les lois raciales. Alors, il y a beaucoup de pression sur le clergé de Pavia. Pavia, c'est le centre de jurisprudence de l'Église catholique. Et pour dire que parce qu'elle est juive, elle n'a pu comprendre le sens du mariage.
Alors attendez, c'est important, il y a les lois raciales qui se sont introduites sur le modèle allemand en Italie, et donc une juive ne peut pas s'engager parce qu'elle ne sait pas ce que c'est que le mariage catholique.
Elle n'a pas pu comprendre ce que ça veut dire, le contrat de mariage.
Il y a des juges ecclésiastiques qui sont sensibles à cette argumentation raciale.
Et surtout au nord, ça c'est très important, qu'il y a une grande part, c'est-à-dire le clergé qui a été disponible à un argument légal avec l'idée que les juifs ne pouvaient pas comprendre le mariage.
Et là vous citez un juge ecclésiastique qui a un nom connu, Pacelli.
Oui, ça c'est une question parce que Pacelli, c'est le frère
du pape
Pie XII, était l'avocat de lui à un certain moment. Et ça, c'est une question qui, bon, peut-être il est en train de mourir, des subterfuges, des complots, parce que cet argument à la fin, on sait presque tout de suite alors, on a dit, bon, le mariage ne marche pas, bon, nul, parce qu'elle est juive. Bon. Dans l'Église, il y aura eu des questions, mais il faut faire une autre chose, il faut arriver à Rota. Et 39, 30, 40, et bon, ça c'est très très long, lente. Et bon, à la fin, même avec tous les problèmes de Pio XII, ça c'est, les auditeurs sont français, ils sont américains, non pas d'américains, belges, des autres, et ça c'est même la loi romaine qui ne peut pas dire, bon, parce qu'on est juive, on ne comprend pas oui, la loi.
Vous dites les auditeurs de la Rote, les juges de la Rote.
Ça n'existe pas, c'est évident. Et surtout, le mariage pour le Vatican, c'est un droit naturel. Alors, bon,
qui peut s'exercer, d'une nation à l'autre.
Pour ça aussi que je vois, que ça c'est intéressant, une espèce de découverte, pourquoi le pape était tellement contre l'antisémitisme de Mussolini et même de Hitler. Ouais, contre,
d'un point de vue théologique.
De théologique, parce que le droit naturel de s'épouser entre ethniquement, religieusement, ça c'est du tout. Ça, c'est pas.
C'est fondamental pour le catholicisme.
Fondamental pour toute l'humanité.
C'est intéressant parce que vous donnez cette explication inattendue de l'opposition théologique
à
l'antisémitisme.
C'est très important parce que l'Église protège le mariage. Tout le mariage. Et c'est pour ça aussi que je crois que peut-être on va étudier encore en Allemagne, on n'a pas imposé le divorce. Le divorce était, c'est-à-dire consensuel entre le couple, parce que bon, ça n'existe pas pour l'Église, l'idée de supprimer le mariage.
Parce que souvent on dit l'Église est hostile au totalitarisme parce qu'elle ne veut pas que ses organisations de jeunesse soient contrôlées par les fascistes ou par les nazis. Non. Mais plus importante encore que la question de la jeunesse, la question du mariage.
Mariage. Peut-être, bon, Napoléon, vous savez, on a eu Napoléon en France et même dans l'Allemagne, tous les autres pays. Alors le mariage a changé, est devenu un contrat civil. En Italie, on a eu des problèmes, c'est-à-dire que parce que le royaume de Savoie, excusez-moi ce moment de pédagogie, bah, c'était difficile à comprendre, il n'y avait pas le divorce. Et alors, le mariage devient peut-être parce que pays latin, c'est pas tout à fait évident. Le mariage est fondamental. Bien qu'il soit beaucoup de mariages, très peu de mariages, c'est-à-dire, c'est bizarre. Il y a un grand problème de mariage, mais c'est fondamental pour, au point de vue éthique et religieux, ça.
Ouais.
Et social aussi, dans la grande famille et tout, le contrat.
Quand la question de son appartenance au monde juif se pose devant la justice ecclésiastique, nous sommes après les lois raciales de Mussolini. Et elle a quitté l'Italie, elle va devoir quitter l'Italie. Pourtant, elle était là, accrochée comme une bernique à l'Italie, rien que pour ennuyer son ancien mari, mais elle est obligée de partir. Et elle va aux États-Unis.
Oui, elle va aux États-Unis. Et elle rentre pure, épousée un prince Cheruzzi, bon, c'est duc Cheruzzi, bon, et les Américains qui... À un certain moment, il y a une interview 1942 qu'elle est comme l'épouse séparée. Elle n'est pas fasciste, elle est patriotique, mais elle a encore des soucis pour son époux, son mari qui a été capturé. Bon, elle ne sait pas plus qu'est-ce qu'elle va faire, mais en 1942. Ouais.
Il est capturé, mais il est délivré aussi. Et quand la République de Salo, la petite République fasciste au nord, est constituée, il la rejoint. Il rejoint la République de Salo, mais il y est toujours traité excellence, mais il n'a plus de rôle.
il n'a pas plus de rôle, et surtout, il a une autre femme, c'est-à-dire... Ah. Oublié.
Pour
c'est
le
compliqué.
Film. Non, non, on n'a pas oublié, il faut la faire intervenir maintenant.
À partir de 1937,
dans le scénario.
Il a une autre femme, grande, jolie, très intelligente, de famille bien, de Alexandrie d'Égypte.
Vous n'allez pas me dire qu'elle est
juive. Elle-même.
Ah,
juive
elle
aussi. Juive aussi. Et il a une fille qui aime, c'est un peu comme sa mère, elle est blonde, elle semble vraiment l'arien pur. Il y a beaucoup de photographies d'elle par un photographe juif, Karel. Mais en tout cas, ça devient compliqué parce qu'elle est sans papier. C'est-à-dire, elle était là parce qu'elle était orphelin de ses parents. Elle était chez des familles, sa famille juive à Turin. Et alors, à partir de 38, ça devient même difficile pour elle, avoir des papiers. Et
pour lui aussi, alors il a trouvé une solution, c'est de la laisser déporter aux îles Lipari.
La déporter. C'est-à-dire, ce monde d'ordre utilise toutes les possibilités de la structure de répression, et elle a été femme de moralité dubieuse, douteuse. Elle est envoyée à Lipari, c'est-à-dire dans le camp de concentrement de Lipari. Et elle est là pour presque deux ans, et libérée par les Américains, 43. Et elle rentre à Rome. Il était en prison, changement de régime. Et Tiruzzi est en prison. Et elle va le trouver. Et
Cet homme a quand même... il sait retenir les femmes.
Il pleure souvent, Tiruzzi. Oui. C'est un homme vulnérable pour les femmes, mais bon, ça c'est important aussi.
Nous sommes toujours dans le mélodrame. Mais alors, c'est bien aussi dans un film qui a une partie judiciaire. Mm-hmm. Il n'y a pas eu tant de procès que ça contre les dirigeants du fascisme. Mm-hmm. Et lui qui a échappé à la mort, mm-hmm. Il n'était pourtant pas loin de Mussolini et de Clara Petacci à Milan au moment de leur assassinat, mais il est l'objet d'un procès et il va se retrouver en prison.
Oui. Il a la fortune d'y être trouvé d'y être bloqué par les partisans avec sa femme, c'est-à-dire et l'enfant des.
Donnons son nom, elle s'appelait Yvette.
Yvette Blanc, c'est famille, grande famille de la Roumanie, et sa petite blonde de 6 ans. Et même, il n'était pas des partisans communistes, il était des partisans socialistes. Et en ce moment, on pensait peut-être que c'est mieux faire le processus et pas le mitrailler tout de suite, hein, parce que ça, c'est pour beaucoup de fascistes. Et alors, il est condamné, pas à la mort, ça aussi, c'est dans le moment, mais à 30 ans. Alors, c'est-à-dire, il a eu de fortune parce que il n'est pas mort. Et les années, il va finir dans le donjon, dans la prison de Procida.
Au pied de laquelle Yvette ouvre une auberge.
Ouais. Avec la petite.
Parce qu'elle va le visiter tous les jours.
Oui. Ouais. Alors, j'ai eu la possibilité de faire une interview à Capalin de la prison qui avait...
Au chaplain, à l'aumônier de la prison.
Chaplain qui avait 90 ans, comme un cardinal avec l'infirmière russe, espèce de James Bond, qui a parlé de Tiruzzi, c'est-à-dire elle était... son nouveau chef, c'est-à-dire il a trouvé dans la prison le commandement, un autre commandeur. Ça, c'est intéressant. Il a toujours trouvé un autre.
Oui, c'était
système.
Un prisonnier modèle.
Ouais.
Il se mettait au garde à vous devant le directeur.
Il a été modèle, surtout pour les prisonniers plus féroces. Il a été une espèce de modèle pour les calmer.
Ouais.
encore major, toujours le même soldat, c'est-à-dire le même soldat qui a changé de chef voilà, plusieurs oui. fois.
Pour... Il est libéré assez tôt et qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il va s'installer à l'auberge ouais. d'Yvette. Et là, il se tient au bout de la table et il raconte l'histoire à sa façon.
Oui, il raconte à soi, accueille les néofascistes qui viennent de Naples. Ça, c'est 1950. Il fait des interviews. À la fin, il meurt comme une figure très romantique.
Le patriarche, un peu. Je voudrais que vous nous racontiez comment... l'aumônier de la prison, et puis plus généralement, une grande partie du clergé italien, qui ont considéré avec une certaine froideur les difficultés des Juifs, par contre, se sont démenés pour sauver le plus possible de fascistes, au point, disait-il, qu'ils les déterreraient, peut-être pour les sauver. Le clergé italien a pris plus soin des leaders fascistes emprisonnés ou en fuite que des Juifs déportés.
Je n'ai pas bien compris la question.
Alors, je la répète une troisième fois. Parce que c'est ce qu'on trouve aussi à la lecture des archives dites secrètes du Vatican, le livre de Madame Valbousquet. Ouais. Le clergé défend plus systématiquement les leaders fascistes les Juifs auparavant. Vous arrivez à le dire, ça, quand même. Vous arrivez à en convenir.
Il avait des grandes responsabilités pendant le fascisme, qu'il a tout changé, la fatalité. Alors, c'était une idée même de sauver les âmes perdues du fascisme. Alors, Tirucci, c'était bien parce que il s'est pas converti, c'est pas ça, mais il a commencé à être plus religieux. Il était déjà catholique, mais sans être catholique. Et surtout, alors l'Église a aidé beaucoup les familles fascistes après la guerre, beaucoup, beaucoup, avec toute une organisation des grandes dames, des princesses. Et surtout Tirucci, pour les femmes, il était toujours tombeur des femmes, c'est-à-dire vulnérable, avec les larmes, et bon, très très violente. Alors,
qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Ça veut dire fasciste parfait. Bon.
Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il vous a dit, l'aumônier, le vieil aumônier, le vieux chapelain, que vous a-t-il dit ?
Oui, qu'il a été... Ah, c'était intéressant, il a dit, moi, que... Tirucci était épousé avec une riche américaine, fille d'un industriel, juif, financière, qu'il a laissé quand le fascisme a fait chute. Alors, ça, c'était l'idée catholique qui est le problème, ça a été la femme. Qu'il a laissé parce qu'il n'était pas plus un homme de pouvoir.
Ouais. Bon. C'était elle, la traîtresse.
Oui,
elle, la traîtresse. Eh bien, quelle histoire.
Bon.
Et ça fait 20 ans que,
non,
que vous avez commencé.
Oui, commencé, c'est-à-dire 2007, avec les sacs. Avec les sacs les lettres. Et c'est surtout la question que je ne connaissais pas, ce type. Tirucci, j'ai dit, bon, moi, je ne connais pas. J'avais étudié le fascisme depuis, 20 ans. J'avais écrit des autres choses. Jamais ce type. Alors, c'était une question de chercher l'homme, de trouver ce type. Et parfois, sans l'archive de famille, il n'y a pas de famille. Ah, ça compte beaucoup pour les archives. C'est-à-dire, il n'y avait pas de lettres.
Oui.
Il a eu beaucoup de problèmes, même dans la prison, parce qu'il n'avait pas de famille légitime. Il a perdu toute sa propriété. Et ça, c'est...
Oui, il a été sa condamnation,
parce qu'il
n'avait
pas la femme, la famille régulière. Ça, c'est important. Et Mais
pourtant, il s'était fait construire des très beaux appartements, panoramiques.
Oui, ça existe encore. Si vous allez à Castiglioncello, c'est une très grande maison de blanche, de grands architectes des années 20-30. Ça existe encore. L'Essai maintenant patrimoine de l'État. Alors, c'est un centre de laboratoire de biologie. Maintenant, je crois que c'est la bibliothèque. Bon, ça existe. C'est notable. Parce qu'il est même, il avait un grand goût aussi. C'est-à-dire qu'il avait les ouvriers des grands architectes, même pour le meuble. Bon, c'est une figure bizarre.
Peut-être un jour, son immeuble portera-t-il son nom avec le nouveau régime italien. Est-ce que... Quelle réflexion avez-vous eue quand le gouvernement Meloni a été installé à peu près le jour de l'anniversaire, du centenaire de la marche sur Rome? Et la séance du Parlement a été présidée par la doyenne du Parlement, qui se trouvait une sénatrice à vie juive, qui avait été victime des lois raciales.
Oui.
Elle a fait le discours d'ouverture du Parlement, et le chef des néofascistes du Parlement, qui allait devenir le président de l'Assemblée, lui a offert une gerbe de roses.
Pour moi, le fascisme historique, l'étiquette, ça marche pour l'histoire. Alors, Meloni, oui, elle est, on disait, néofasciste. C'est un autre moment, vraiment, c'est une espèce de continuité de Berlusconi. Oui, c'est de la pauvreté de démocratie, du populisme, mais elle n'a pas le pouvoir, c'est-à-dire c'est un autre moment avec dans le pouvoir et surtout les fascistes, c'est-à-dire peut-être même comme le fascisme, c'est un mouvement très divisé entre le droit qui veut utiliser l'État et des néolibéralismes. Et Meloni, elle est très liée, c'est-à-dire liée, non, elle n'est pas liée, mais l'Italie est une espèce de colonie de l'Union européenne. Alors, il n'y a pas beaucoup d'espace pour un vrai droit. Entre les États-Unis et l'Union européenne, l'Italie, c'est pas grand-chose. Je crois qu'en ce moment, c'est pas un grand laboratoire, mais on peut voir aussi, on va voir, hein.
On voit pour conclure que vous êtes une vraie historienne parce que vous reconnaissez le caractère composite de chaque moment de l'histoire. Quelques questions peut-être avant que nous ne nous séparions.
Questions de histoire épique, un peu épique.
Madame.
Oui, je voulais savoir qu'est-ce que c'était le plus difficile à trouver, à se procurer la information par rapport à Trussi ou à Liliana.
Qu'est-ce qui était le plus difficile pour vos recherches en matière de sources, ce qui vient de Liliana ou ce qui vient d'Attilio?
C'est une bonne question. Je ne suis pas biographe. Je ne suis pas habituée à faire la biographie. Et ça, c'est très difficile parce qu'il faut exactement quand elle est née. Il n'y en a pas de possibilité de il faut être très, très exact. Alors, la correspondance d'elle, faut lire, très matérialiste. Alors, c'était l'abondance du matériel de Liliana. Et le manque d'archives sur Turuzzi, et surtout Turuzzi, il écrivait un italien horrible, c'est-à-dire tédieux, plein de mots, de clichés, tout ça. Alors, ça, c'est un peu le problème. Quand on fait l'histoire du fascisme, c'est pas élégant. C'est surtout des difficultés de lire. Mais c'était très bien, c'était une grande aventure dans toutes les localités en Italie. Et on trouve toujours des éléments de continuité, des histoires, des petites histoires. Alors, peut-être j'aime maintenant mettre ensemble toutes ces petites histoires, cette espèce d'anecdote pour arriver à une espèce de grande mosaïque des mœurs, des coutumes, des voix. Alors ça, la difficulté, c'est à la fin de mettre ensemble toutes ces voix, de créer la narrative. Bon, parce que ça n'existait pas. Vraiment difficile, parce que la narration, c'est difficile. Les romanciers, j'ai une grande admiration pour
et n'oubliez pas que vous allez devoir écrire un scénario de film bientôt.
Oui, ouais, c'est pour ça. Bon. Mmh. Ouais, opéra, même, peut-être un opéra.
Oui, monsieur.
Victoria, tu nous as habitués depuis longtemps à faire une histoire sociale du fascisme. Oui. Là, tu te risques à la biographie. Et ma question serait, à travers ce prisme-là, à travers ce cas-là, qu'est-ce que tu nous apprends de neuf par rapport au régime et à son évolution ?
Collègue Topolov qui... Oui, moi aussi, je viens des sciences sociales, et ça, c'est-à-dire marxiste, bon, qu'on a un grand intérêt pour le pouvoir. Et c'est-à-dire, bon, l'hégémonie, et ça veut dire cette classe dirigeante fasciste qui veut devenir classe dirigeante. Et ça, c'est pas tout à fait évident. Et même le micro-pouvoir, j'arrive tout de suite. Mais même la sociologie historique, les barrières, les niveaux. Je fais beaucoup d'attention, les distinctions du bon Dieu. C'est très important de comprendre tout ça. Ça, c'est un peu... pour lire ces archives. Et bon, à la fin, je crois que c'est une espèce d'histoire sociale d'une petite collectivité ou même d'un individu. Ce n'est pas une biographie, ça. Ce n'est pas du tout... Et qu'est-ce que ça révèle? Beaucoup sur, pas l'histoire sociale, mais vraiment une espèce de sociologie du pouvoir. Parce qu'on voit ces tentatives, ces stratégies individuelles, mais vraiment collectives, qui viennent de l'expérience de ces types, des archétypes, presque archétypes. C'est-à-dire, Tirussi, quand j'ai compris que c'était un soldat, j'ai eu des problèmes parce que j'ai dû lire beaucoup. Mais qu'est-ce que ça veut dire soldat? Qu'est-ce que veut dire soldat? La profession du soldat. Et il y a des grands livres sur la profession du soldat des Allemands transférés aux États-Unis, Chicago. C'est-à-dire la sociologie historique qui m'a aidé. Et même les romans, les grands romans qui ont le problème de l'amour transatlantique comme système social et d'amour aussi, mais même des grands romans européens sur le petit homme. Ça a été très important, surtout pendant les deux guerres. Alors je pense Paul Nizan, Antoine Bloyer, ce sont des archétypes, des grands problèmes. Et alors à ce moment, on peut voir que le fascisme, c'est un système européen. C'est un système moderne, c'est un système de despotisme avec beaucoup d'anachronisme. L'idée du vierge, ça vient d'où ça? Ou le pouvoir du clergé, 1930, qui c'est puissant, même après la guerre, l'Église rentre. C'est la guerre froide, c'est très important, l'Église. Alors, on commence à voir mieux que le fascisme, ce n'est pas l'exception. C'est un système de société, d'organisation de la société, et ce n'est pas totalitaire. Je ne suis pas d'accord avec Anne Arendt. La société civile, ça existe. la moralité, ça existe. Oui, la violence, mais ça, c'est une violence qu'on connaît bien, mais utilisée avec même une idée d'ordre qu'on peut reconnaître aussi comme ordre bourgeoise et une espèce de combinaison entre l'ordre et désordre, les types de classes dirigeantes qui existaient en Italie. Et c'est pour ça que à la fin, c'est une histoire, c'est la narration, c'est quand, parce que je crois à ce moment, c'est difficile de faire une histoire sociologique et trouver un public. C'est un grand problème de défendre l'histoire du passé. Alors, ça, c'est peut-être trop grand pour ça. Mais
vous savez, quand ce sera en film,
le
plaisir que vous avez eu sera partagé.
Parce que vous vous Netflix, c'est ça. C'est comme,
Vous vous décrivez comme une universitaire américaine, extravertie, avec les cheveux en bataille. Ouais. Et vous avez pris du plaisir quand même. Vous avez pris du plaisir à écrire le livre.
Oui. Surtout parce qu'on a créé beaucoup d'amitié. C'est bizarre dans l'Italie, c'est beaucoup de liens, oui, c'est une espèce de grand amour avec cette société difficile, hein, je dois dire ça. Bon. Et peut-être ça peut, je ne sais pas aider, mais en tout cas, créer des liens pour la lecture, c'est ça.
Enfin, merci à vous et à la Maison des Sciences de l'Homme qui vous a intégré dans une très belle collection. C'est une édition sans faute, illustrée. Très bien travaillé.
Beaucoup merci moins de fautes dans la version française parce que oui. L'éditeur a corrigé même les archives fascistes. Il se trompait ici. Et elle avait raison.
Donc, bon, merci à vous.
Merci.